Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En ce jour férié, ensoleillé, sachez que 150 000 marins sont toujours bloqués en mer un peu partout sur la planète, avec impossibilité d'accoster en ces temps d'alerte sanitaire. Le confinement devient lourd, le moral baisse et la dépression guette. Vous l'entendrez, témoignages à l'appui.
Dans ce journal, nous irons ensuite dans une commune de l'Essonne, où le maire sortant a été battu dès le premier tour des municipales en mars. Mais à cause de la crise sanitaire, il est resté en poste. Pas facile pour sa remplaçante.
Les municipales dont le second tour pourrait avoir lieu le 28 juin, selon Édouard Philippe. Dans un quart d'heure, Frédéric Seiss, dans le billet politique, vous expliquera pourquoi personne ne veut porter ce fardeau du calendrier.
Avant cela, direction la Colombie, où les familles qui manquent de nourriture accrochent un chiffon rouge à leur porte. Ils se multiplient en ce moment.
Et puis nous nous demanderons si les best-sellers peuvent relancer les ventes des librairies en ce moment. Certains auteurs ont été publiés dès la fin du confinement. Nous commençons donc ce matin avec une pensée pour les 150 000 marins bloqués en mer actuellement à cause de la crise sanitaire. Faute de port où accoster, de nombreux équipages de marine marchande ou de bateaux de croisière se retrouvent totalement isolés sans savoir quand ils pourront de nouveau mettre pied à terre. Un sentiment d'abandon auquel s'ajoute de plus en plus la dépression. 3 suicides ont été récemment recensés. Témoignage de marins recueillis pour nous par Olivier Poujade.
Cela fait 66 jours que Caio Saldanha, musicien de 31 ans, tourne en rond à bord d'un navire de la compagnie Royal Caribbean.
On a l'impression de ne plus appartenir à cette terre, d'être des pions de la compagnie. C'est angoissant, on est totalement impuissant et le fait qu'il y ait eu des suicides sur d'autres bateaux, ça nous inquiète vraiment.
Ces employés de compagnie maritime ont pourtant l'habitude de vivre au milieu des mers.
C'est pas que de l'éloignement, la question de l'isolement est importante à bord. Avoir une date de fin, ça permet de se projeter.
Kabine Jego dirige le dispositif d'aide psychologique en mer de Saint-Nazaire.
Il y a eu beaucoup de souffrances liées au fait que les ports ferment les uns après les autres et les possibilités de relève s'amenuisent. Et ça, c'est effectivement très fatigant psychiquement.
L'épidémie de coronavirus a complexifié les procédures. Pour la relève comme pour le débarquement de l'équipage, des discussions, des autorisations sont nécessaires entre les pays, avec les autorités portuaires. Chaque marin est un cas particulier, observe Jean-Marc Lacave, délégué général des armateurs de France.
Vous avez des endroits, par exemple, d'un port à l'autre, dans le même pays, la situation ne se règle pas de la même façon. C'est pas très compréhensible, mais il y a effectivement un grand bazar.
Un gigantesque casse-tête pour les compagnies et une attente infernale pour les 150 000 marins immobilisés au large.
Les marins essentiels, mais toujours invisibles. Pour mieux comprendre ce désastre économique, social et mental, retrouvez sur franceculture.fr une bulle économique récemment proposée par Marie Viennot. C'est officiellement pour sortir de l'isolement que des milliers de Français vont quitter leur domicile en ce week-end prolongé de l'Ascension. Les règles, toutefois, restent les mêmes. Ne pas se déplacer à plus de 100 km de son domicile, sauf pour motif professionnel ou familial impérieux. Les contrôles sur les routes et dans les gares seront plus nombreux, préviennent les autorités. Sur le littoral, certaines communes, notamment en Bretagne, ont décidé d'ailleurs de fermer de nouveau leurs plages pour éviter les effets de groupe sous le soleil du moment. Et puis à Strasbourg, le maire rend obligatoire le port du masque dans le centre ville aux heures les plus fréquentées pour ce week-end de l'Ascension. Et en ces temps particuliers où les rassemblements sont toujours à éviter, il faut tout de même se projeter. Pour les élections municipales, le Premier ministre a proposé hier soir 2 dates, soit le 28 juin pour l'organisation d'un second tour qui avait été annulé à la mi-mars, soit au mois de janvier 2021. Il faudrait alors revoter le premier tour. Dans les deux cas, les communes restent gérées actuellement par les maires sortants. Et cela peut donner lieu à des situations ubuesques. C'est le cas dans l'Essonne à Chilly-Mazarin, Rosalie Lafarge.
Jean-Paul Benetou en est persuadé. Si on n'avait pas annoncé la fermeture des restaurants la veille du premier tour, ses électeurs auraient été plus nombreux.
J'ai une clientèle qui a été très impactée par cette annonce. Des gens nous ont dit « je suis désolé, mais je ne veux pas prendre de risque ».
Battu dès le 15 mars, il conteste la sincérité du scrutin. Il a déposé un recours pour en demander l'annulation. Mais depuis, l'élu Les Républicains pilote encore les affaires de la commune dans le grand bureau de la mairie, puisque c'est encore le sien, pour quelques jours au moins.
Un jour avant de passer le relais, on nous dit « non, on arrête tout. C'est vous, les maires en place, qui devez gérer ce qui va se passer pendant les mois suivants ». Pendant ces 2 derniers mois, je n'ai passé mon temps qu'à ça. à s'occuper des personnes âgées, des livraisons des repas, de commander les masques, des commerçants et la rentrée des classes. Alors on ne peut pas être non plus 36 à s'en occuper.
36 peut-être pas, mais 2, c'était sûrement jouable, plaide Rafika Rezgi, la socialiste élue au premier tour avec plus de 55% des voix.
J'ai très honnêtement pensé que l'esprit républicain primerait dans la période. Bon, c'était pas partagé, hélas.
Et l'élu regrette de ne pas avoir été associé aux décisions qu'elle va par la suite devoir assumer.
Typiquement, l'organisation de la réouverture des écoles est quelque chose qui n'a pas été discuté ensemble, alors même que j'en avais fait la demande. La commande des masques, les modalités de distribution des masques, tout ceci n'a pas fait l'objet d'un moindre échange entre nous.
Cela laisse présager une ambiance électrique au conseil municipal prévu mercredi pour installer la gagnante dans son fauteuil de maire et reléguer Jean-Paul Benetou au banc de l'opposition.
Car effectivement, au niveau national, pour les maires élus dès le premier tour, les conseils municipaux doivent les adouber la semaine qui vient, au plus tard jeudi prochain. Arrêtons-nous à présent sur une autre conséquence de cette vacance du pouvoir dans les mairies. Les chantiers ordonnés par les communes sont souvent à l'arrêt et plombent les finances des entreprises. Ainsi, la moitié des chantiers de renouvellement des canalisations d'eau potable n'ont toujours pas repris en France. Cela inquiète notamment en Lorraine, à Pont-à-Mousson, dans le dernier haut fourneau du département. Le directeur de l'usine, Ludovic Weber, espère un regain de patriotisme au sein des collectivités locales.
En phase municipale, donc de changement d'équipe, ce n'est pas le moment où les maires ont nécessairement envie de lancer des chantiers. Mais si la période électorale dure plusieurs mois, ça va faire beaucoup de mal, pas forcément que à Pont-à-Mousson, mais à toute la filière. C'est extrêmement important que les donneurs d'ordre n'hésitent pas à contribuer à la relance économique nationale. On en a besoin de notre filière de l'eau en France. Il faut que les maires et que les collectivités jouent le jeu. Plus tôt les élections ont lieu, pour nous, plus c'est favorable.
Des propos recueillis par Thierry Collin de France Bleu Sud-Lorraine pour France Culture. Alors que la date exacte pour le second tour des municipales devrait être donnée d'ici une semaine. Le secteur automobile craint également pour sa relance en ce moment, tant les effets du confinement ont été dévastateurs. Hier, le Canard Enchaîné évoquait la fermeture de 4 sites français du constructeur Renault. Information qui n'a pas été démentie dans la journée. Le gouvernement met déjà en garde l'entreprise et prépare de son côté un plan d'aide pour le secteur automobile, car toute la filière est en difficulté. 30% des concessionnaires des centres de réparation des loueurs et des stations-service craignent un dépôt de bilan. Les États, décidément au chevet de leurs entreprises en ce moment. En Allemagne, la compagnie aérienne Lufthansa est proche d'un sauvetage par le gouvernement de Berlin. Il s'agirait d'un plan de 9 milliards d'euros. Du côté d'Air France KLM, par ailleurs, notons cette annonce tranchante. La compagnie arrête l'exploitation de 9 Airbus A380. Elle répète vouloir se concentrer sur des avions plus modernes, plus performants et surtout dont l'empreinte environnementale est considérablement réduite. Voilà qui fait écho à la décision d'un autre grand groupe, Danone, dit vouloir devenir une entreprise mission. Le géant de l'agroalimentaire serait la première société française du CAC 40 à inscrire dans ses statuts des objectifs sociaux et environnementaux. C'est un changement progressif et surtout beaucoup de communication, Annabelle Grelier.
Depuis plusieurs années, Danone multiplie les marques d'engagement à travers son institut, sa fondation. En 2018, il annonçait s'aligner sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, prévoyant d'ici 2030 d'améliorer la santé avec un portefeuille de produits plus sains, préserver la planète, protéger ses 100 000 salariés dans le monde, dont 9 000 en France, ou encore promouvoir une croissance inclusive. Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, la raison d'être de Danone avait d'ailleurs été annoncée comme mission par l'entreprise dès 2005. Pour autant, le géant de l'agroalimentaire est régulièrement épinglé par les ONG sur ses activités d'alimentation infantile avec les scandales de lait pour bébés contaminés, sur les questions d'approvisionnement d'eau concernant son activité eau minérale ou encore sur les questions d'emballage plastique de ses bouteilles et pots de yaourt. Son très médiatique PDG Emmanuel Faber est de tous les combats. Il assure que son entreprise est prête à financer la consigne en France pour réduire les déchets. Il appelle l'Europe à valoriser au sein de la PAC le stockage du carbone dans le sol. Il investit massivement pour les emballages recyclables. Hier, Emmanuel Faber indiquait également qu'il réduirait de 30% pendant 6 mois sa rémunération et que les membres du conseil d'administration renonceraient à la leur pour le second semestre 2020 afin d'élargir la couverture santé des salariés du groupe. Bref, tous les signaux sont là pour rassurer le consommateur et les investisseurs en recherche de produits éthiques. Reste maintenant à savoir si les marchés financiers suivront.
C'était Annabelle Grelier. Cette annonce à l'instant de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. Elle annonce qu'il y a eu 5 fois plus de signalements de cas de violence conjugale sur la plateforme gouvernementale pendant le confinement. 36% de plaintes en plus également ces 2 derniers mois et 5 fois plus de signalements. C'est ce que dit à l'instant Marlène Schiappa. Il est 8h10, vous écoutez toujours France Culture et avec la crise du nouveau coronavirus en ce moment, sachez que des millions de personnes manquent de nourriture. La famine guette un peu plus en Afrique, ce n'est pas nouveau, mais aussi en Amérique du Sud. En Colombie, par exemple, le confinement a privé de ressources financières près de la moitié de la population ces dernières semaines. Pour signaler le manque de nourriture dans un foyer, les Colombiens le signalent désormais avec un chiffon rouge accroché à la porte. Notre correspondante Nadjet Ben Rabat l'a constaté dans un quartier de San Javier à Medellín.
Dans les rues de San Javier, les chiffons rouges se multiplient. Lina Marcela Duran Machado, 38 ans, est mère de 3 enfants. Elle le met régulièrement sur la poignée de sa porte.
Ta famille t'interpelle et te dit « Maman, il n'y a plus de papier, plus de savon, plus de nourriture. » Là, tu commences à penser « Qu'est-ce que je vais faire ?» Quand on pouvait sortir dans la rue, on se débrouillait. Ici, 500 grammes de sucre, là, autre chose. On a l'impression de mourir de l'intérieur.
Avant le confinement, Lina travaillait en intérim et gagnait le salaire minimum, soit environ 230 euros par mois. Pour survivre, elle s'est aussi rapprochée de l'association des femmes indépendantes dite AMI, qui reçoit des dons des Colombiens et des professionnels. Ce mardi, 2 restaurateurs français livrent. Sylvain Lefebvre et Adrien Albuis dirigent un café. Depuis 1 mois et demi, ils offrent 2 fois par semaine des sandwichs ou des repas. Adrien Albuis.
Nous avons mis en vente des bons d'achat pour nos clients. Ça nous permet d'avoir un petit peu de trésorerie. Et ensuite, avec mon associé, du coup, on a eu aussi l'idée de reverser 20% de cette somme à des associations qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables.
Ces 60 sandwichs sont un soulagement pour la directrice de l'association, Maria Socorro Mosquera Londoño.
Dans le quartier, c'est 50-50. 50% vivent dans de bonnes conditions, 50% vivent dans la pauvreté extrême. 90% des habitants du quartier travaillent de manière informelle.
Dans le quartier San Javier, rien que dans le secteur d'Independencia, 7000 familles sont dans le besoin.
C'était Nadjet Ben Rabat depuis la Colombie et nous reviendrons sur les crises en Amérique latine après cette édition dans la deuxième partie des Matins de France Culture. Avant cela, soulignons qu'il y a également de bons signes de reprise. Tous les aéroports italiens, par exemple, pourront rouvrir à partir du 3 juin. Ce sera le 1er juillet pour la Grèce qui lancera sa saison touristique à la mi-juin. Et pour savoir si le tourisme européen pourra reprendre en France cette fois, il faudra attendre le 15 juin. C'est l'objectif. Voilà ce que disait hier le secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoine. J'ajoute enfin que le confinement est entièrement levé à partir d'aujourd'hui, 21 mai, en Polynésie française. 60 cas au total y ont été recensés, mais aucun ces 2 dernières semaines. Finissons ce journal par un moyen de voyager, oui, mais sans traverser les frontières. Il s'agit de la lecture pour certains. Entre les mois de mars et juin, 5300 nouveautés et nouvelles éditions étaient programmées par les éditeurs. Tout ou presque a été suspendu ou repoussé. Depuis quelques jours, le secteur se remobilise avec le déconfinement et avec, heureusement, quelques grands noms de la littérature populaire, Margot Delpierre.
400 000 exemplaires ont été tirés pour La vie est un roman de Guillaume Musso chez Calman Lévy. Pour le directeur général des éditions, Philippe Robinet, c'est une façon de soutenir les libraires.
C'est du rôle de l'auteur numéro 1, c'est du rôle aussi de l'éditeur, de l'auteur numéro 1, que d'aider, dans notre mesure, à rallumer un peu les lumières dans les librairies, en tout cas d'aider à rallumer les lumières dans les librairies. On a voulu effectivement donner ce signal d'un redémarrage.
Dominique Gouste, patron des éditions de Fallois, peut également s'appuyer sur un romancier très populaire, le Suisse Joël Dicker.
Pendant la période de fermeture, la baisse de chiffre d'affaires a été égale ou supérieure à 80%. Dans l'ensemble, je serais plutôt optimiste parce que le livre de Joël Dicker était très attendu, il est très bien accueilli et que les commandes sont supérieures à celles de son précédent roman paru il y a 2 ans, 2018, La disparition de Stéphanie Miller.
Les éditeurs ont réduit leur production pour éviter un embouteillage en librairie. Ne serait-il pas le moment de ralentir la course à la nouveauté, se demandent des maisons d'édition indépendantes. Elles ont publié une tribune fin avril dans les colonnes de l'Humanité, un discours que partage la Lilloise Fabienne Van Hul, fondatrice de la librairie Place Ronde.
J'ai ressorti il y a quelque temps un livre de 1937 qui s'appelle « Impossible ici » de Lewis, que très peu de mes clients connaissaient, pour ainsi dire aucun. C'était une nouveauté pour eux. Donc je pense qu'on peut aller tout à fait dans les fonds des maisons d'édition. C'est important aussi d'aller rechercher ce qui peut parler d'actualité et qui a été écrit il y a longtemps.
En 2018, plus de 82 000 titres ont été publiés.
Alors les best-sellers vont-ils venir à la rescousse des librairies? Question que pose également Margot Delpierre sur notre site. C'est un article sur franceculture.fr. Et puis alors qu'un ouragan qui est en train de déferler en Inde et au Bangladesh depuis hier, 3 millions de personnes actuellement ont dû quitter leurs habitations. Des pluies torrentielles en ce moment, des rafales à plus de 185 km/h. Cela se passe en Inde et au Bangladesh. La météo en France, heureusement, le temps est plus sec et plus lumineux en ce jeudi de l'Ascension. Chaud surtout avec 19 degrés ce matin à Rennes, 23 à Lille, à Besançon et Bordeaux, 26 déjà à Paris et 27 degrés ce matin à Perpignan.